but de notre évolution doit être l'homme. Et alors, c'est pourquoi il serait plutôt bon que nous soyons à l'écoute les uns des autres pour essayer de trouver ce que nous avons de commun pour bâtir le bonheur de demain. Et dans tout ça, l'homme doit être l'objectif principal. Parce que toute réalisation qui ne fait pas le bonheur de l'homme est un long feu. C'est comme on tire à la cible et puis on rate le but.
Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopic, le podcast qui s'interroge sur les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. Je suis Mariemta Moussalang et je vous invite à me suivre dans cette exploration des enjeux contemporains depuis les Suds en général et les mondes africains en particulier. Car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par la modernité occidentale et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Et parce que penser le présent à partir de l'Afrique monde est radical, cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement, afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, je reçois un invité qui développe des idées ou une initiative qui nous permet de nous approprier des enjeux culturels, idéologiques, écologiques, économiques, techniques, politiques ou encore épistémologiques, afin d'alimenter nos réflexions et de nourrir nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Afrotopic, c'est un podcast du studio Génération Afrotopia. Si vous aimez Afrotopic, soutenez le podcast avec un don, vous trouverez le lien dans la description, abonnez-vous à la lettre de ressources, suivez-nous sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les plateformes. Merci beaucoup et bonne écoute! Dans cet épisode, on rencontre le philosophe Pierre Charbonnier pour une discussion autour de son livre « Abondance et liberté » paru en janvier 2020 aux éditions La Découverte. C'est un travail d'enquête remarquable, soutenu par l'ambition de saisir et de mettre au premier plan la dimension matérielle des institutions et des catégories de la modernité occidentale, afin de voir un peu plus clair sur la manière dont on peut envisager de reconfigurer le présent. Il est question de trajectoire de développement, de la matérialité des catégories politiques, de développement écologique inégal, ou encore du lien entre les pratiques sociales et la capacité à faire son histoire. C'est un livre important et structurant, donc on vous invite vivement à le lire car on est très loin d'en faire le tour dans cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Pierre Charbonnier.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, chargé de recherche au CNRS. Et vous avez publié un ouvrage qui porte sur l'anthropologie et les sciences sociales et la manière dont ces disciplines étudient les sociétés humaines dans leur rapport à leur milieu. Aujourd'hui, on va s'intéresser à votre dernier livre, « Abondance et liberté », sous-titré « Une histoire environnementale des idées politiques », paru en janvier 2020 aux éditions La Découverte. Donc « Abondance et liberté », c'est une grande enquête qui dure 4 siècles, dans laquelle vous nous invitez à suivre et à observer de manière critique la trajectoire de formation des idées et des institutions fondamentales de la modernité occidentale que l'on connaît aujourd'hui sous leur forme fossilisée, abondance et liberté, et qu'on pourrait traduire dans le langage courant par croissance et démocratie. Donc dans cette enquête, on rencontre beaucoup de monde, beaucoup d'auteurs classiques, des économistes, des juristes, et aussi énormément de notions fondamentales, la question de la propriété, de la souveraineté, de la valeur. On fait aussi pas mal de détours par d'autres auteurs issus d'autres corpus, et notamment venus des Suds et du sous-continent indien. Mais surtout, on suit un fil, celui de la manière dont la nature a été investie par les sociétés modernes et comment ces rapports se traduisent dans le droit, l'économie et la pensée politique. Donc c'est un travail qui est informé par la grande équation contemporaine, à savoir donc comment formuler, comment façonner à l'heure du dérèglement climatique un régime politique qui soit adapté à nos réalités géoécologiques sans abandonner, sans renoncer à nos idéaux d'émancipation, sans non plus le formuler à partir de catégories issues d'un rapport de production, qu'il s'agisse du travail humain ou de l'énergie, tout en prenant en compte la nouvelle dimension spatiale des enjeux et la carte des inégalités écologiques. Donc, Pierre Charbonnier, comme c'est un immense programme, je vous propose de commencer tout de suite. Est-ce que vous pouvez commencer par nous restituer le point de départ de l'enquête, nous dire pourquoi c'est important de faire une histoire environnementale des idées politiques de la modernité, et que nous raconte cette histoire de nos institutions fondatrices ?
Merci, merci d'abord de me proposer de venir discuter avec vous, c'est très généreux et très intéressant. Alors, bon, ce livre, on peut dire, essaye de remettre un petit peu à plat la façon dont les, dont les sociétés modernes, occidentales, racontent leur propre histoire, et surtout essayent de ne pas obéir à des grandes divisions du discours sur la modernité. Par exemple, on peut dire qu'il existe deux grandes manières de raconter la trajectoire historique de nos sociétés. La première, c'est en fait, elle s'appuie essentiellement sur le développement des institutions juridiques et politiques qui sont censées aboutir en fait au triomphe des démocraties libérales d'après-guerre, c'est-à-dire la lente et patiente construction du règne du droit, enfin de l'état de droit en fait, et de la conjonction entre l'idéal d'égalité, l'idéal de liberté, donc dans le cadre essentiellement juridique des démocraties. Il y a une autre manière de raconter ces mêmes sociétés, c'est de passer par en fait le développement des sciences, des techniques et le réaménagement massif des capacités productives, mais aussi des milieux naturels que tout ça entraîne. Et en fait, ces deux manières de raconter le processus de modernisation communiquent assez peu l'un avec l'autre. Vous voyez, par exemple, si vous lisez du Marcel Gauchet ou du Rosan Vallon, vous avez le récit 1, l'invention du citoyen, de la démocratie, etc., du système représentatif. Mais ils ne disent rien sur les sciences, les techniques, les systèmes productifs. Puis de l'autre côté, si vous lisez de l'histoire des sciences, de l'histoire économique, de l'histoire des techniques, donc vous avez ce grand récit en fait de l'autre modernisation, mais qui parle très peu des mutations institutionnelles en fait à l'intérieur desquelles tout ça se passe. Donc moi j'ai essayé de raconter une histoire qui se trouve à la conjonction des deux. Pourquoi ? Parce que je pense que ce qui est en train de nous arriver. Donc, les crises climatiques, écologiques, biodiversité, avec tout le cortège de conséquences politiques et géopolitiques que ça a. En fait, ces phénomènes-là sont incompréhensibles si on ne tient pas ensemble les deux dimensions de cette auto-compréhension, si vous voulez, de la modernité. Puis il y a une autre dualité, je pense, qui n'est pas bonne. En fait, c'est la dualité entre les histoires triomphalistes et les histoires procès. C'est-à-dire, vous avez d'un côté donc, des histoires qui sont des histoires qui chantent l'avènement téléologique de la démocratie libérale, qui aurait vocation à s'étendre depuis l'Europe au reste du monde. Et évidemment, il y a aussi un récit triomphaliste du développement technologique, de la croissance, de la sortie de la misère, etc., qui de la même manière aurait vocation à se diffuser de l'Europe au reste du monde. Et puis vous avez un peu le même récit à l'envers, c'est-à-dire le récit entièrement accusatoire ou procès, qui dirait, la démocratie est un faux semblant parce que ça n'est que de l'impérialisme déguisé. Même chose pour le développement technoscientifique, qui ne serait que le règne de l'appropriation technique du monde et le prélude aux catastrophes environnementales. Donc, vous voyez, il y a des grandes binarités comme ça qu'organisent un peu les sciences sociales et la philosophie. Et donc, je pense qu'il faut essayer de s'en méfier, en partie, parce que, comme vous l'avez très bien dit, ce qui nous arrive remet en jeu, en fait, les structures fondamentales de la rationalité politique moderne, donc le régime de propriété, le régime de souveraineté, le système représentatif lui-même, et la légitimité démocratique elle-même. Donc, il faut essayer de reprendre un petit peu tout ça, pas à pas. Ça passe par une reprise des étapes, du développement de ce qui a pu être considéré longtemps comme un modèle, modèle qui, je pense, est aujourd'hui largement en porte-à-faux. C'est-à-dire il y a un écart gigantesque, en fait, entre la nature des catégories politiques et des infrastructures juridiques sur lesquelles on vit et, en fait, tout simplement, les appuis matériels, le monde dans lequel ces catégories en sont venues à exister. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui est totalement différent de celui dans lequel toutes ces catégories ont émergé. Il y a même plusieurs mondes, en fait, qui nous en séparent. Donc tout ça les met en suspens, les met même en porte-à-faux. Donc il faut reprendre un petit peu, ce travail-là.
Oui, voilà, donc le monde dans lequel les catégories politiques et économiques à partir desquelles on construit nos sociétés sont... Ce monde-là est très différent de celui d'hier, du monde dans lequel elles ont été fondées. mais que même à l'époque, même au moment où elles ont été développées, votre histoire de la modernité, elle montre que dès le départ, il y a énormément de choses problématiques et que bien avant la question du dérèglement climatique, tous les enjeux de la construction du droit, de la propriété, les concepts de la croissance, enfin, vous montrez à travers de nombreux exemples, mais que ça a fondamentalement toujours été problématique parce qu'il y a eu du hors-champ, du hors-sol et du hors-temps.
Oui, alors, moi, ce que j'ai essayé de faire, alors, le fil rouge analytique que j'ai essayé de suivre dans ce livre, c'est ce que décrit donc, le sous-titre du livre, une histoire environnementale des idées politiques. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de montrer que on ne comprend pas bien la structuration de nos idées politiques si on n'éclaire pas la façon en fait, dont elles se branchent sur des milieux, sur des territoires, sur des ressources, sur des espaces. C'est-à-dire, par exemple, j'essaie de montrer que le concept de propriété, tel qu'on le connaît, alors c'est un concept juridique évidemment, mais c'est un concept juridique qu'on ne comprend pas bien si on ne voit pas qu'il y a aussi en même temps des considérations agronomiques. C'est ce que j'essaie de montrer avec John Locke, qui nous dit, en fait, vous êtes propriétaire d'une terre si vous vous montrez capable de décupler sa productivité, en fait, c'est-à-dire de la défricher, l'assécher ou d'apporter de l'eau en fonction des conditions écologiques données, de mettre des gens au travail dessus, de la rendre productive, en fait. Être propriétaire, c'est rendre productif la terre et être dans le concept d'une république éclairée sous le signe de la science, du droit, donc typiquement ce que l'Angleterre imaginait être au XVIIe siècle, il faut faire ça pour être un vrai citoyen. C'est-à-dire, le contenu matériel de la citoyenneté moderne, c'est rendre productive la terre et si possible, encore mieux, rendre productive la terre que d'autres sociétés humaines n'ont pas réussi à, soi-disant, pas réussi à rendre productive. En l'occurrence, ce sont les Amérindiens, hein, puisque l'Amérique, l'espèce de partenaire géographique permanent de l'imaginaire politique du proto-libéralisme chez Locke, c'est-à-dire c'est pas seulement qu'il faut conquérir des terres, ça c'est ce que faisaient bêtement les Espagnols avant, ils allaient en Amérique, ils faisaient de la conquête, mais ils n'en tiraient rien. Ce qu'il faut, c'est mettre en valeur la terre. C'est le concept clé ici, c'est celui d'amélioration, hein, en anglais c'est improvement, c'est vraiment le concept structurant de toute l'idéologie politique moderne, hein, l'amélioration, c'est voilà, rendre productive la terre. Et ça c'est en même temps la constitution du sujet politique moderne est le socle de légitimation du régime propriétaire. Donc on voit bien que là, on a quelque chose qui est en même temps de l'ordre de la constitution juridico-politique et même en fait, géopolitique, hein, parce qu'il y a des rapports entre différentes régions du monde, donc des rapports impériaux en fait, hein, et puis,
parce que Locke était donc législateur en Caroline.
Voilà, jusqu'à une période assez récente, les philosophes étaient toujours des gens qui avaient un pied au moins dans le pouvoir. Dans le cas de Locke, c'est manifeste qu'il avait même carrément les deux pieds dans le pouvoir, hein, en l'occurrence le pouvoir impérial de son propre pays. Donc vous voyez, on voit toujours ce lien. Même chose pour le concept de souveraineté. De souveraineté, c'est le cadre juridique en fait de l'État-nation moderne à partir du XVIIe siècle, mais c'est aussi quelque chose qui est en permanence forgé à partir d'une réflexion sur des frontières. Qu'est-ce qui fait une frontière ? Est-ce que c'est des limites naturelles ou est-ce que c'est des limites artificielles ? Qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Est-ce que les mers sont communes ou est-ce qu'on peut s'approprier ? Enfin, en fait, faire tomber sous le joug d'une juridiction politique donnée des mers ou pas ? Et devant le fait que, de toute façon, les grands empires commerciaux, donc Hollande, Angleterre, Espagne, France, se superposent les uns aux autres parce qu'ils empruntent tout le temps tous les mêmes routes commerciales, puis qu'ils vont essayer d'exploiter tous un peu les mêmes terres, donc Amérique, Afrique, Asie, ces grandes périphéries, en fait, du début du système capitaliste, bah, en fait, il faut s'organiser et créer des régimes juridictionnels qui permettent de créer du commerce, du développement, enfin, comme on ne disait pas encore comme ça à l'époque, mais du commerce, de la richesse, sans tout le temps se taper dessus, en fait, sans tout le temps faire la guerre. Donc, on a tout le temps ce branchement de catégories politiques sur des pratiques de transformation du monde dans ce que ça a d'absolument concret, quoi. C'est des routes commerciales, de la mise en valeur de la terre, voilà, des choses comme ça. Et cette histoire, donc c'est ce qui permet de transformer un peu l'idée qu'on se fait de nos grandes catégories politiques. Et c'est ce qui permet aussi, c'est pour ça que mon livre est en partie, on pourrait dire, rétrospectif, hein, c'est-à-dire c'est ce qui permet de comprendre qu'aujourd'hui, quand on est dans une crise systémique, globale, à la fois matérielle et politique, ça n'est pas un hasard, ce n'est pas un truc qui arrive comme ça à la fin de l'histoire, un peu par surprise. C'est parce que notre trajectoire politique est, depuis le début, une trajectoire, une trajectoire matérielle en même temps.
Une trajectoire matérielle qui est construite autour d'un centre, qui n'intègre pas les périphéries, alors qu'il y a tout un passage sur Fichte. Et j'ai noté, l'Europe vit d'un sol qui n'est pas le sien. Et c'est un énorme problème, parce qu'effectivement, les institutions politiques sont construites sur les affordances matérielles de la Terre, pour reprendre vos mots. Mais que la Terre qui est considérée, c'est juste pas la bonne. Donc on a un petit souci de décalage territoriale,
oui, alors,
les terres cachées, les terres fantômes.
C'est une idée que j'ai trouvée chez Fichte. En fait, c'était intéressant de discuter Fichte parce que c'est le premier à dire quelque chose qu'en fait, qui constitue à partir des années 60-70 vraiment le socle épistémologique de la critique, anti-impérialiste ou post-coloniale. C'est-à-dire, en fait, il y a un décalage massif entre les prétentions universalistes de l'Occident et sa tendance lourde à adosser ces prétentions-là sur des confiscations matérielles. C'est-à-dire, Fichte le dit bien, Fichte dit, il s'adresse aux Anglais en fait, hein. Fichte dit aux Anglais, vous vous faites les promoteurs de l'universalité de l'état de droit, mais sauf que votre état de droit, comme c'est un empire confiscatoire, violent, meurtrier, qui prétend construire des relations de partenariat économique, alors qu'en fait, ce sont des pures et simples relations de prédation,
de disqualification, de la manière d'habiter la terre.
Avec, alors ça, Fichte ne le dit pas, mais effectivement, avec en plus de ça, la matrice en fait raciale qui se développe à l'intérieur de tous les empires coloniaux, britanniques, français et autres. Donc ça, évidemment, Fichte ne le dit pas, en tout cas pas explicitement. Il n'est pas non plus complètement omniscient, hein, le gars. C'était un Allemand du XVIIIe siècle. Il était probablement tout aussi raciste que les autres. Hein, mais bon. En tout cas, il a vu qu'il y avait un décalage, c'est ce que j'ai appelé donc l'ubiquité des modernes, il y avait un décalage entre ses prétentions universalistes et en fait un double standard dans le traitement des humains. C'est-à-dire, on promet les garanties juridiques de l'état de droit pour ceux qui sont à l'intérieur donc des frontières de l'Angleterre ou de la France, pour prendre quand même les deux plus gros empires coloniaux de l'époque, mais ça ne fonctionne que parce qu'on les nie ailleurs. Hein. Donc Fichte dit ça parce qu'il est allemand et que l'Allemagne à l'époque n'a presque pas d'empire colonial, donc ça les fait rager, donc il essaie c'est stratégique évidemment, hein, il n'est pas mu par des intentions totalement pures cet homme-là, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, exactement. La situation d'échec de l'empire colonial allemand le rend lucide là-dessus. Bon, ça le rend totalement pas lucide sur d'autres trucs, parce que l'état commercial fermé, c'est quand même assez autoritaire et violent, en son genre aussi. Mais bon. Donc, vous voyez, hein, y a des réflexions quand même très précoces sur les rapports entre, disons, l'universalisme juridique moderne et les agencements géographiques et écologiques auxquels ça donne lieu. Et c'est intéressant de le rappeler. Parce qu'après, évidemment, ça va nourrir de très nombreuses critiques des impérialismes, des colonialismes. Et c'est absolument évident que la question écologique procède au moins en partie de ces réflexions-là, dans la mesure où c'est une réflexion sur l'inégalité de distribution des coûts et des bénéfices du développement. Hein, en termes contemporains, on le dirait comme ça. Ou pour le dire à la manière de Martinez Allier, c'est une question de développement écologique inégal. Hein. Il y a des régions du monde qui essentiellement sont tournées vers l'extraction des matières premières, c'est-à-dire des activités économiques qui ne nécessitent pas une main-d'œuvre très qualifiée et qui n'engendrent pas des formes de développement endogène, hein, où on a toute la chaîne de production de la marchandise, on a juste la première étape extractive, et puis là, des consortiums économiques type Compagnie des Indes ou autres, après, au cours de l'histoire, s'occupent de prélever l'essentiel de la valeur que rend possible ces activités extractives, sans les payer pour ce qu'elles sont, à la fois sans payer le travail pour ce qu'il est, c'est manifeste dans le cas de l'esclavage. Ça l'est aussi de manière quasiment égale dans le cas du travail contraint, hein, y compris
travail forcé ou la condition ouvrière.
Voilà. Évidemment aussi non-paiement en fait des coûts écologiques des activités extractives. Donc ces grandes asymétries structurelles qui sont pas totalement assimilables aux asymétries du capitalisme stricto sensu, parce que c'est beaucoup plus large que le capitalisme lui-même. Il y a des États non capitalistes qui pratiquent ce genre de choses, que ce soit pré-capitaliste, soit non capitaliste, comme la Russie soviétique ou la Chine aujourd'hui. Donc ces asymétries-là sont structurelles. Elles engagent encore à la fois ce couplage en fait entre des institutions politiques et en fait des pratiques écologiques. Quoi.
Et donc, ce que l'on peut constater quand on lit cette histoire de la modernité, c'est que donc à la fois il y a cette immense dissonance, asymétrie, gouffre entre les prétentions, l'histoire qu'on se raconte et les institutions qui en procèdent. Et qu'un des traits particuliers de cette manière de procéder, en fait, c'est principalement l'invisibilisation, l'occultation, le fait de ne pas intégrer, de ne pas incorporer, bah, notamment ce dont vous venez de parler, des coûts réels ou bien des pratiques réelles d'exploitation humaine qui sont nécessaires pour rendre possible cette abondance ou bien cette liberté. Et on en trouve aussi des traces, ça se concrétise aussi dans de la théorie économique qui a pratiquement une visée, en tout cas qui, dans ses conséquences, a une forme un peu falsificatrice, parce qu'on a construit cette idée de la modernité, du progrès, de l'abondance sur l'idée que la croissance était intensive, donc liée à une amélioration du travail, de la productivité, et non pas extensive, c'est-à-dire liée à l'incorporation en réalité de matières premières qu'on va chercher toujours plus loin et d'un territoire sur lequel on s'étend, qui est de plus en plus vaste. Est-ce que vous pouvez juste peut-être faire un point sur la nuance entre ces deux croissances, parce que je crois que c'est aussi très important.
Je reprends un tout petit peu en amont. Et je reviendrai là-dessus. En fait, non, je m'accroche sur ce que vous avez dit quand vous dites là, qu'en fait, il y a une occultation de la question de la nature ou de l'environnement dans l'histoire moderne. Alors, en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire, si on reprend les exemples que je prenais tout à l'heure, la question de l'agronomie chez Locke, des routes commerciales chez Grotius, des choses comme ça, ou même l'exemple que je prends plus tard au 19e chez Jevons et les questions de l'économie du charbon, en fait, on se rend compte quand même que jusqu'à assez tard, en fait, jusqu'au 20e siècle, il n'y a pas vraiment d'occultation de la dimension matérielle du processus de conquête de l'autonomie. La plupart des auteurs étaient tout à fait lucides sur le fait que pour en fait remporter des victoires contre l'avarice de la nature, fallait taper fort, fallait des machines, fallait de la conquête, donc des armées, des bonnes banques, des bonnes institutions. C'est-à-dire que pour le meilleur ou pour le pire, souvent pour le pire, les grands acteurs intellectuels de la processus de modernisation savaient que c'était... Enfin, d'ailleurs, ils le disaient explicitement, souvent, c'était une guerre contre la nature. Donc, il n'y a pas d'occultation dans ce sens-là, vous voyez. Jevons dit explicitement, je cite les passages dans le livre, en 1865, à partir du moment où on va commencer à épuiser les veines de charbon anglais, on va être coincé parce que à la fois notre modèle économique, notre modèle de civilisation, notre conception de l'autogouvernement, de notre indépendance des îles britanniques, va s'épuiser. Parce que on risque de perdre l'appui matériel de ce processus-là. Donc, de ce point de vue-là, vous voyez, il n'y a pas vraiment d'occultation. Par contre, c'est vrai, en parallèle, il y a le développement d'un certain nombre de savoirs, et notamment l'économie, dont on peut dire qu'ils occultent la dimension matérielle de ce processus de modernisation, dans le sens où, en fait, ils se focalisent en fait, sur le système d'échange de la valeur dans ce qu'elle a d'abstrait, en fait, monétaire. Hein. On échange des signes de valeur sans trop se poser la question de savoir quelles sont les forces matérielles à l'œuvre au niveau du travail et au niveau en fait, des techniques d'exploitation du milieu. Et plus tard, en fait, essentiellement après la Seconde Guerre mondiale, c'est là que vraiment il y a la grande période qu'on peut caractériser comme une période d'occultation. Parce que le développement en fait, d'une assise sur le charbon et le pétrole et le nucléaire et la démultiplication de la quantité d'énergie qui s'introduit dans le système des échanges économiques, vraiment c'est spectaculaire, c'est ce que les historiens appellent la grande accélération hein, après la Seconde Guerre mondiale. Toutes les courbes d'exploitation grimpent en flèche, elles deviennent verticales quasiment jusqu'à aujourd'hui. Il y a une masse telle d'énergie, de matériaux incorporés à l'économie, qui fait quasiment qu'on se sent en lévitation. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça engendre des formes de socialité, des modes de vie typiquement urbains, qui sont tellement éloignés du ressenti de la contrainte matérielle. Alors encore une fois, dans les pays dits développés au nord, hein, c'est pas du tout le cas dans le reste du monde, qu'on a l'impression qu'en fait, un bon système politique, c'est un système politique capable de totalement faire oublier la contrainte matérielle. Alors, et ça, c'est un immense débat. Hein. Assez tôt, par exemple, je le mentionne à travers la référence à Durkheim. Déjà, à la fin du 19e, des gens comme Durkheim disent « Attention, parce que si on ne sent plus du tout peser sur nous de la contrainte physique, on déprime, en fait. » C'est-à-dire qu'on est un peu trop riche, on ne sait pas quoi faire de cette richesse-là, et c'est ce qu'il appelle l'anomie, mais l'anomie, en termes plus vulgaires, ça veut juste dire « on déprime ». D'ailleurs, il en fait même une cause de suicide. Hein. C'est-à-dire... on ne sait plus quoi faire de nos capacités anthropologiques fondamentales, vous voyez, on ne sait plus tellement quoi désirer, on ne sait plus tellement où sont les limites de notre action, on ne sait plus tellement sur quoi se fondent en fait nos interactions sociales. Donc là, il y a un effet pervers en fait du développement qu'il identifie lui-même et qui a été identifié plein de fois après lui. Par exemple, j'en parle pas dans le livre, mais Illich le dit très bien dans Énergie et Équité, c'est-à-dire à partir d'un certain niveau de développement, la quantité de richesses qu'on accumule n'est plus du tout corrélée à l'amélioration du bien-être. Et d'ailleurs, des bases de données toutes simples de la Banque mondiale le montrent aussi. Hein. C'est-à-dire, si vous mettez dans un même graphe le PIB par habitant d'un pays et des indices de bien-être, vous voyez qu'en fait, la courbe, elle fait comme ça. C'est-à-dire, pendant un moment, l'augmentation du PIB induit une augmentation du ressenti de bien-être, si vous voulez. Il y a un point d'inflexion qui correspond en fait, si vous voulez, par exemple aujourd'hui, au niveau de développement d'un pays comme le Vietnam, vous voyez, de ce type-là, où en fait, les pays peuvent devenir plus riches, évidemment, c'est le cas de la France, c'est le cas des États-Unis, d'autres, mais le gain en termes de bien-être est quasi nul, en fait. Voire même parfois, il finit par redescendre, parce qu'en fait, c'est de l'accumulation de richesses qui ne crée pas de développement au sens réel. Donc ça, c'est discutable, hein, je vois que vous hochez la tête, on peut rediscuter. Mais en tout cas, c'est ça, en fait, à quoi on est confronté aujourd'hui, cette réflexion sur le sens de l'accumulation. Est-ce que c'est une pure accumulation de capital abstraite? Est-ce que c'est une accumulation, pour reprendre les termes d'Amartya Sen ou de gens comme ça, de bons appuis pour le développement des capacités humaines fondamentales, en fait un droit fondamental au développement, en fait. Où on en est, en fait, exactement de cette trajectoire-là? Parce que malheureusement, ce qui prédomine quand même encore, c'est l'idée que la croissance, dans son sens strictement économique, hein, mesurée par des indicateurs comptables, c'est-à-dire l'échange de valeurs monétaires, c'est tout. C'est quand même ça qui constitue l'impératif catégorique de toutes les politiques publiques, alors pour le coup, de tous les pays. Parce que comme tous les pays doivent se financer dans des banques, ils ont besoin de montrer aux banques qui les financent que ce sont des bons investissements, c'est-à-dire qu'il y a un retour sur investissement, c'est-à-dire de la croissance. Et pas forcément du développement.
Ouais, c'est cette idée en fait qu'on est gouverné maintenant par les instruments de la mesure initiale, originelle, en tout cas de ce qu'on considérait comme étant le bien-être, en tout cas auquel il fallait accéder dans nos sociétés, mais que du coup ces indicateurs sont devenus eux-mêmes en fait des indices de gouvernement et non plus de mesure.
C'est ça, exactement. Effectivement, c'est ce qu'il y a de passionnant dans le concept de croissance, c'est-à-dire qu'en fait c'est plusieurs choses en même temps. Ce sont des agrégats économiques qui sont construits par des grandes agences statistiques qu'il y a aujourd'hui dans tous les pays du monde, hein, qui permettent de prendre la température de l'intensité des échanges économiques. Mais c'est pas seulement un instrument de mesure, c'est un guide pour l'action, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'un impératif structurant pour les politiques publiques. Et en fait, les mesures de croissance, on peut dire, elles encapsulent, en fait, elles naturalisent le lien entre abondance et liberté, c'est-à-dire que ce sont des dispositifs qui ont été inventés entre les années 30 et les années 50, en fait, en parallèle, hein, aux États-Unis, en Angleterre, en France et en Allemagne, qui étaient en fait les nations qui avaient les plus grands moyens humains et scientifiques pour le faire, hein, pour faire des statistiques publiques, en fait. Et je dis qu'elles encapsulent le rapport entre abondance et liberté parce qu'en fait, ce sont des instruments statistiques qui ne disent jamais autre chose que l'intensité des échanges qui se produisent à l'intérieur d'une nation donnée, sont un indicateur fiable, en fait, de la légitimité démocratique. C'est-à-dire, si vous voulez rendre des comptes à votre population, montrez-leur des taux de croissance, qui, en gros, sont censés être aussi des taux d'emploi, hein. Aujourd'hui, plus tout à fait. Donc, montrez-leur ça, et c'est comme ça que vous pourrez dire, Vous avez bien fait de nous élire, en gros. Nous sommes légitimes, il y a de la performance. Ça marche, ça fonctionne. Un organisme gouvernemental qui dirait « Nous, maintenant, on va gouverner sur un autre principe de légitimité », serait sérieusement en porte-à-faux par rapport aux attentes quand même largement répandues dans la population. Si on voit que ça fait plus de croissance, les gens vont supposer que ça fait plus de développement, ça ne répond plus à leurs demandes sociales de base. Et là, ce découplage, il est très compliqué parce qu'il y a c'est ce que personne d'ailleurs n'arrive à faire aujourd'hui, il y a un saut dans l'inconnu à faire, c'est de dire, il faut qu'on essaie de gouverner sur d'autres critères. Parce que si on continue à gouverner sur des critères de croissance dans ce que ça a d'absolument abstrait, bah on va rencontrer une autre impasse, une autre contradiction, qui est une contradiction matérielle, climat, environnement, biodiversité, santé, hein, aussi. Et là, on est coincé, c'est l'impasse.
Et puis, tension politique, les vieilles questions de souveraineté, de territoire et autres, qui ressurgissent. Donc, du coup, l'enjeu, ça devient un petit peu de savoir comment est-ce qu'on peut, si dans un premier temps, on est toujours obligé de s'appuyer sur la production d'une liberté qui est quand même principalement matérielle, mais améliorer peut-être les dispositifs de cette production et surtout d'améliorer notre compréhension et notre mesure réelle de la manière dont nous interagissons, dont nous composons avec ce qui nous entoure et notre milieu. Et ça passe par, vous citez deux paradigmes qui sont donc les paradigmes des limites ou le paradigme des risques. Est-ce que vous pouvez un peu développer sur ça ?
Ouais. Alors, donc effectivement, une des idées structurantes du livre, c'est que on ne peut pas concevoir l'acquisition d'un bien apparemment symbolique comme la liberté sans réfléchir à ses appuis matériels ou à ce que j'appelle parfois de manière un peu plus technique les affordances écologiques qui permettent de se libérer ou de gagner de l'autonomie. La liberté n'a rien d'immatériel, en fait. On a toujours besoin d'appui pour se dire libre ou non libre, d'ailleurs. Donc, effectivement, la matrice standard de ça, c'est la conquête des gains de productivité, de la terre, du travail. Ça a marché un temps. Hein. Donc, c'est vrai que je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure. D'abord, par des conquêtes de productivité intensives, c'est-à-dire en fait l'amélioration de l'organisation du travail, de la division du travail. Puis, en même temps, parallèlement, des gains de productivité extensifs, c'est-à-dire l'intégration d'une plus grande quantité de territoire et de matière au circuit économique. En général, par les moyens des conquêtes coloniales, impériales.
Pas très sympathique.
Pas très sympathique, très très loin de là. Aussi par les moyens de l'occultation des conséquences écologiques de l'action, c'est-à-dire on remet à plus tard les conséquences de l'action. Et donc c'est là que la question du risque et des limites intervient. C'est-à-dire, à partir des années 60-70, il y a de plus en plus de contestations, précisément du paradigme de la croissance comme dispositif de développement, de pacification, de légitimation des démocraties libérales, avec deux types de discours. D'abord, des gens qui disent qu'il y a des limites à la croissance. Donc, Club de Rome, le néo-malthusianisme, en fait, hein, du Club de Rome. C'est-à-dire, on a beaucoup repoussé les limites matérielles du développement, celles que Malthus pensait être absolument infrangibles, liées à l'économie organique. Bon, on les a repoussées grâce au pétrole, charbon, nucléaire, etc. Mais il y en a d'autres qui sont en fait des limites, pas seulement des limites en termes de quantité de ressources, mais des limites d'absorption des effets de l'activité industrielle, des pollutions notamment. Et puis il y a aussi une autre limite quand même que pointent les gens du Club de Rome, qui sont les limites démographiques. Et c'est là qu'ils sont franchement malthusiens, et on pourrait même dire aussi franchement impérialistes quand même, parce que le Club de Rome, ça consiste quand même à dire il y a trop de pauvres sur cette terre. C'est eux le problème. Ce qui est quand même éminemment contestable. Hein. En réalité, il y a trop de riches. Enfin, il y a trop de gens qui consomment trop, en fait. C'est pas une question de... Bon. Donc il y a ça. Il y a ce discours sur les limites qui se met en place de plein de manières différentes. Donc, vous voyez, de manière comme ça, très néo-malthusienne, un peu pas terrible, voire même franchement eugéniste, parfois. Il y a d'autres modalités du discours sur les limites. Qui était quand même un des gros massifs de la proto-contestation écologique de la matrice de abondance et liberté. Quoi.
Ce qui est quand même un peu gênant.
C'est embêtant. Et puis l'autre, tout aussi intéressant et d'une certaine manière assez gênant aussi, c'est le paradigme du risque. C'est-à-dire, c'est un paradigme qui consiste à dire, c'est ce que dit Ulrich Beck, c'est un de ceux qui a mieux formulé ce paradigme, mais c'est pas du tout le seul à en parler. Il dit qu'est-ce que c'est la modernité technoscientifique ? C'est quelque chose qui ne produit pas seulement de la richesse, des marchandises organisées sur le travail, c'est quelque chose qui produit donc, des effets latéraux, on dit parfois des externalités. En produisant des biens, on produit aussi des maux, accidents industriels, épidémies, pollution, insécurité, etc. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est une modernité capable d'intégrer cette incertitude, ces risques, à son mode de développement. Donc, il faut accroître les liens entre science et politique, démocratiser les sciences, en fait, appliquer le principe de précaution, tout ce genre de dispositifs-là. Ça, c'est le paradigme de la modernité réflexive, comme on dit parfois en sociologie, hein, qui est très intéressant, mais qui a quelque chose aussi d'un petit peu naïf, dans le sens où on suppose qu'on va absorber la conflictualité engendrée par les risques environnementaux en donnant la parole à tout le monde, en fait, en élargissant les processus dialogiques de la démocratie, un petit peu à la Habermas, à de la discussion sur les choix technologiques, sur les choix scientifiques. Ça s'est jamais vraiment... À l'époque, dans les années 80, les gens y croyaient vraiment, ils pensaient que si on faisait des grands forums de discussion sur la vache folle, sur le nucléaire, sur... Bon, c'était pas encore les OGM, mais on peut l'imaginer. Sur tous ces trucs-là, on allait vraiment prendre des bonnes décisions éclairées. On sait bien aujourd'hui que rien de tel ne s'est produit. Pas juste parce qu'on n'a pas voulu le faire, mais parce que simplement, la dimension politique des sciences et des techniques n'est pas soluble dans la résolution collective des controverses, en fait. D'ailleurs, c'est un coup similaire qui a été tenté avec la Convention citoyenne sur le climat ces derniers temps en France. On voit bien qu'en fait, tout ça est toujours suspendu à la volonté ou non du pouvoir d'entériner le résultat de ces processus de discussion, en fait. Donc c'est ça la limite. Et puis il y a aussi un problème d'organisation capitaliste de la production qui fait que le droit de propriété sur les ressources extractives ou sur des choses comme ça étant ce qu'il est, les industriels, ils peuvent continuer à produire tant qu'ils trouvent des débouchés pour leur production. Et ça, on peut débattre autant qu'on veut, ça ne changera vraiment rien du tout. Enfin, quasiment rien. Donc, vous voyez, le paradigme du risque a aussi un côté un petit peu embêtant. Et en plus, il a été réemployé en fait, par la troisième voie blairiste, néolibérale, pour dire, en fait, le risque, c'est une caractéristique fondamentale de l'action humaine. Il ne faut pas, en fait, essayer de les éviter. Il faut jouer le jeu du risque. Donc, on peut se débarrasser de l'État-providence qui supervise tout, qui rentre, qui est très intrusif dans vos vies, et vous rendre votre autonomie, c'est-à-dire votre capacité à prendre des risques pour vous-même, à créer votre propre emploi, votre propre entreprise, des choses comme ça. Donc, en fait, le risque, c'est génial. Allons-y à pieds joints. Il y a des textes vraiment très importants qui ont été écrits dans les années 80 là-dessus. Et ça a servi un peu de socle de légitimation à ce qu'on appelle le néolibéralisme, dans le sens où c'est une critique de l'État-providence, quoi. C'est-à-dire, rendons aux gens leur autonomie contre ces mastodontes qui intègrent toutes les dimensions de votre vie, y compris les plus privées, à des décisions systémiques, à de la biopolitique, comme on pourrait dire avec Foucault. Donc il y a eu ça aussi dans l'investissement intellectuel et idéologique sur les risques, ce qui fait que ces deux paradigmes, qui étaient vraiment les paradigmes centraux du développement des politiques environnementales, ont quand même été compliqués. Tout ça a laissé de côté, en fait, un autre paradigme qui préexistait mais qui a été un peu oublié à cette époque-là. En fait, c'est le paradigme, on pourrait dire, de Gandhi, quoi. C'est-à-dire de Gandhi ou, d'une certaine manière, de Illich. C'est-à-dire d'une critique radicale, construite et politique du développement considéré comme croissance. C'est-à-dire l'idée, tout simplement, de dire le développement et la croissance, c'est deux choses différentes. On peut se développer sans être soumis à des impératifs en fait, d'accumulation continue du capital par les mêmes en permanence. On peut faire des choix techniques qui ne vont pas toujours dans le sens de l'intensité énergétique.
Vous montrez aussi qu'il y a, enfin, il y a des technologies qui sont aussi développées dans le but de construire, de consolider des circuits fermés. Quand vous parlez des carbo-savoirs, qui donnent aussi des carbo-technologies, non ?
Oui, alors, c'est-à-dire que, effectivement, l'exemple le plus frappant de la déconnexion entre le développement des infrastructures techniques et en fait leur simple fonctionnalité sociale, c'est des trucs comme typiquement l'automobile, quoi. qui, et ça aussi, Lys l'a très bien montré, qu'induisent en fait une plus grande perte de temps dans les transports, de plus grandes inégalités urbaines, alors qu'en fait, une ville, c'est ce que les responsables des grandes métropoles aujourd'hui essayent de faire, mais ils n'y arrivent pas parce qu'il y a des inerties énormes. Alors que donc on sait très bien que avec du vélo ou de la petite mobilité légère de roues, ça va plus vite, c'est plus fluide, ça évite les congestions immobilières dans les hypercentres, etc., etc. Donc il y a un lien très profond entre le design, les infrastructures qui soutiennent nos formes de vie les plus triviales, les plus basiques en fait, et des choix très profond, qui engage dans l'organisation institutionnelle et les grands systèmes de légitimation qui les sous-tendent. Donc c'est vrai qu'on est on se retrouve un peu coincé dans cet héritage-là de la modernité, sans effectivement avoir encore des pistes de sortie très convaincantes.
Mais je vous ai interrompu sur la décorrélation justement entre croissance et développement.
Voilà. Alors oui, effectivement. Bon, ça c'est quelque chose que je discute pas tant que ça dans le livre, mais on peut en discuter quand même. Effectivement, il est apparu assez tôt dans l'histoire des idées. Par exemple, c'est ce que dit Durkheim en fait. Mais quand même, enfin, peut-être celui dans l'histoire universelle des idées, celui qui l'a dit de la manière la plus explicite et la plus percutante, c'est Gandhi. Très tôt, un des textes les plus importants de Gandhi qui s'appelle Hind Swaraj. Qui est un texte qui défend en fait l'indépendance de l'Inde contre la tutelle coloniale britannique en 1908. Hein. À cette époque, Gandhi est encore un jeune juriste qui travaille en Afrique du Sud. Il dit en fait la condition de possibilité de l'accession de l'Inde à l'indépendance, c'est de ne pas suivre la trajectoire civilisationnelle de l'industrialisation, mais c'est exactement le contraire parce que il le dit de manière proto-écologiste, il dit « si l'Inde essaie de faire un modèle de développement à l'anglaise, donc la machine à vapeur, l'industrie de masse, le train, etc., c'est impossible, la planète n'est pas assez grande, on est trop nombreux, le pays est trop grand, donc il faut en fait l'invention d'une forme d'autonomie politique au sens vraiment institutionnel, hein, c'est-à-dire un parlement, des représentants, des contre-pouvoirs, etc., etc., une démocratie pluraliste en fait, parce que l'Inde est très compliquée, plusieurs religions, plusieurs groupes ethniques, etc., la question des castes aussi. Donc, l'invention d'un dispositif institutionnel autonome, on dégage les Anglais, mais pas on dégage les Anglais pour faire la même chose qu'eux en Inde. On dégage les Anglais pour inventer un système politique dont la légitimité démocratique tient à la contestation du système civilisationnel de l'industrie. C'est ça qui est absolument... c'est ça qui est beaucoup plus important, beaucoup plus fort en fait chez Gandhi que chez quasiment tous les autres penseurs, de la décroissance après lui. C'est la grande faiblesse de la décroissance, c'est que c'est une pensée qui n'est pas politique. C'est une pensée en général qui dit juste faut moins d'intensité énergétique, matérielle dans nos systèmes économiques parce que sinon on va dans le mur. Ça ok, mais c'est trivial. Ce que disait Gandhi et qui à mon avis devrait être, certains le savent et le réinvestissent, mais ça devrait être plus réinvesti, c'est qu'en fait ce qui est en jeu. C'est pas juste d'être plus léger écologiquement, parce que Gandhi n'avait pas en vue la question climatique, etc. Évidemment, il pouvait pas. Mais c'est la question de faire reposer un processus de construction d'un pouvoir démocratique légitime, c'est-à-dire qui rend des comptes au peuple, mais qui rend des comptes au peuple sans la béquille matérielle de la croissance. Qui rend des comptes au peuple par l'intermédiaire d'un mode de développement. Alors, Gandhi allait très loin. Gandhi avait un côté, en fait, très conservateur. Il fallait maintenir les formes d'affiliation sociale, religieuse, on pourrait dire quasiment clanique, quoi. Des formes de solidarité très organiques, très mécaniques, il faudrait dire, que nous, en Europe, on assimilerait à un traditionnalisme, à une religiosité, à un truc qui enferme un peu. Donc, moi, par exemple, ma socialisation fait que je serais quand même assez rétif à vivre dans des sociétés villageoises, avec des communautés de travail, où on vit ensemble, on mange ensemble, où tout le monde sait tout sur tout le monde. Ça me ferait un peu bizarre. Mais quand même, on peut poursuivre la réflexion plus générale, plus politique, sur la genèse d'une forme de légitimité démocratique qui ne repose pas sur ces grands agrégats statistiques de la croissance. Donc des formes aussi de redistribution, de protection, donc c'est là qu'on peut rebrancher hein, sur la réflexion à la Polanyi, hein, de forme de protection sociale, en fait de justice économique, qui ne sont pas entièrement phagocytés voilà, par l'imaginaire de la croissance. Donc Gandhi est quelqu'un qui avait très tôt adossé un projet anti-impérialiste sur une critique de la civilisation en fait du charbon. Ce qui est quand même, enfin, j'en parle pas dans le livre, mais entre-temps, j'ai un peu travaillé là-dessus. C'est quand même intéressant. Il y a d'autres figures, les figures en fait de l'anti-impérialisme sud-asiatique, type Ho Chi Minh. C'était ça aussi, en fait. C'était des gens qui disaient, bon, alors ils étaient quand même un peu sous la tutelle soviétique et tout, donc il y avait ça, mais il y avait l'idée de faire un anti-impérialisme sur une base matérielle qui est celle en fait de la société essentiellement agraire, agricole. Donc avec des formes de travail qui ne sont pas les mêmes que ceux de la production de masse des plans quinquennaux staliniens, quoi, hein, ni même d'ailleurs du maoïsme. Donc on a des exemples historiques quand même de tentatives de construction d'une démocratie radicale dont les affordances écologiques ne sont pas celles de la surcapacité énergétique, quoi. Donc il y a quelques cas comme ça, mais c'est vrai qu'après la guerre, les succès remportés par les grandes démocraties libérales à base pétrole, à base nucléaire, ont été tels qu'ils ont fait figure d'exemple quasiment pour tous les pays du monde, et y compris aussi pour les pays issus du processus de décolonisation. Prenez par exemple un cas atypique, c'est l'Égypte, qui, à l'époque de Nasser, ils arrivent à mettre dehors la tutelle coloniale britannique. Mais comment ils arrivent à la mettre dehors ? Le grand barrage d'Assouan, la tentative en fait de réintégrer à l'intérieur du pays des chaînes de production plus complètes, de ne plus être un pays simplement extractif, au sens soit minéral, soit agricole. Donc, en fait, l'anti-impérialisme par le développement industriel. Le Brésil, alors le Brésil a acquis son indépendance politique beaucoup plus tôt, mais le Brésil, je pense à des travaux d'un collègue que j'ai lu récemment, en fait, a construit une bonne partie de son discours impérialiste avant et après la Seconde Guerre mondiale, en disant on va prendre le contrôle de l'extraction pétrolière, parce que c'est un pays avec beaucoup de pétrole en fait au Brésil, hein, l'extraction pétrolière par des compagnies brésiliennes autonomes, on va dégager les investisseurs essentiellement américains hein, en Amérique du Sud, et on va faire du développement endogène.
On va faire local du développement industriel.
Quand je dis endogène, je veux dire avec notre propre capital, nos propres ressources, enfin nos propres ingénieurs, nos propres scientifiques, nos propres réseaux, et c'est ça l'indépendance. Donc, vous voyez, il y a plein d'exemples comme ça. Si vous lisez les travaux, par exemple, d'Arthur Lewis, qui est un économiste caribéen, qui a été conseiller économique au Ghana après l'indépendance dans les années 60, il y a cette idée-là aussi. Donc, il est invité par Nkrumah à jouer le rôle de conseiller économique. Arthur Lewis, un très grand économiste qui a été prof à l'AICI à Londres. Et en fait, c'est ce qu'on appelle parfois les élites modernisatrices. C'est-à-dire qu'en fait, il dit... on va faire ce que, par exemple, en France, on fait Jean Monnet, Fourastier, à la même époque, mais au nom de l'anti-impérialisme. Donc, vous voyez, c'est une histoire extrêmement complexe.
L'anti-impérialisme qui s'apparentait, alors, à ce moment, plutôt à du nationalisme.
La composante nationaliste, elle était très importante. Mais pour construire une nation, il fallait produire fort, vite. Et fallait, en fait, l'objectif ultime des gens comme Arthur Lewis, constituer une classe moyenne en Afrique.
Pour faire du keynésianisme.
Pardon ?
Pour faire...
Alors, je ne sais pas à quel point il était keynésien, mais enfin, en tout cas, c'était on imaginait une trajectoire de développement assez similaire à ce qui avait eu lieu en Europe, parce que, effectivement, l'objectif extra-économique, c'est ce que vous avez dit, c'est souveraineté, nation, autonomie, et c'est un objectif, en fait, qu'on ne peut pas nier aux nations issues de la décolonisation, enfin, qu'on ne peut pas leur... On ne peut pas dire, comme disent parfois certains écolos, ils ont fait des conneries, ils ont fait les mêmes conneries que nous. Bah oui, mais ils ont fait les mêmes conneries que nous pour des raisons qu'on peut considérer comme étant justes. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, après, il y a aussi tout un pan de l'histoire des idées qui montre que le développement des disciplines comme la prospective, enfin, qu'il y a énormément de discours qui sont nés dans ce moment post-indépendance pour un peu forcer, engager très fortement et boucher les horizons le plus possible, parce qu'on était dans un contexte quand même de guerre idéologique, qu'il fallait absolument que tout le monde et tous les pays nouvellement indépendants emboîtent le pas et rentrent dans les bons rails de ce que c'est que le développement.
C'est vrai. C'est une histoire extrêmement complexe. J'en suis pas un très grand spécialiste. C'est des choses sur lesquelles je travaille un petit peu en ce moment. Vous avez en partie raison. C'est-à-dire, il y a, en fait, les pays issus de la décolonisation ont été pris, en fait, dans un contexte de guerre froide. C'est-à-dire, d'un côté, les Américains arrivent en proposant du partenariat technique, de l'investissement, sous la bannière, en fait, du containment. C'est-à-dire, en fait, éviter que ces pays tombent sous la tutelle soviétique, hein. Et puis, les Russes font la même chose. Ils arrivent en le disant, regardez, on a des ingénieurs qui sont prêts à vous mettre là un barrage, là une centrale, là une usine. Et puis, en fait, vous allez travailler avec nous. Et contrairement aux Américains, les Russes pouvaient se prévaloir d'une voie anti-impérialiste. Parce que la Russie n'a jamais conquis, l'Asie, c'est discutable, mais en tout cas pas l'Afrique, pas l'Amérique du Sud. Alors que quand les Américains se présentaient comme un appui anti-impérialiste, on les voyait un peu venir, quoi. Plus que les Russes. Donc c'est pour ça que les Russes ont eu plus de succès, d'une certaine manière, dans ce contexte-là. En tout cas, c'est une chose très, très intéressante, parce qu'on voit que les rapports géostratégiques internationaux sont profondément déterminés par cette question de qu'est-ce qu'on fait de nos ressources, comment on les investit pour produire de l'autonomie. L'autonomie nationale pour produire de la souveraineté. Donc c'est vrai, cette vieille histoire moderne se rejoue en fait à la période de décolonisation. Elle n'est pas terminée du tout. Il y a plusieurs modèles, hein, et c'est vrai que le cas de l'Inde est intéressant. L'Inde, donc, qui gagne son indépendance en partie sous l'influence idéologique de quelqu'un comme Gandhi avec le projet politique que je décrivais tout à l'heure, et qui est aujourd'hui devenu un des pays qui a le plus haut niveau d'émissions de gaz à effet de serre, pas seulement parce que c'est un pays très grand et très peuplé, mais aussi parce que c'est un pays dont le modèle industriel est très coûteux en charbon. Donc vous voyez, c'est une espèce de retournement historique quand même assez paradoxal. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils sont coincés dans un problème, en fait, un problème de justice climatique. C'est-à-dire, pour eux, la transition est économiquement inaccessible. C'est trop cher. Les énergies non carbonées sont encore trop chères. Et si l'Inde décidait de faire ce que l'Europe est en train de décider de faire, ce serait en fait une catastrophe économique immédiate. Il y a trop de gens qui travaillent dans les mines, dans toute la chaîne économique qui dépend du charbon. Donc en fait, la question... C'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi. On voit bien qu'aujourd'hui, la question environnementale, la question climatique est une question de justice sociale, pas seulement pour nous, pas seulement gilets jaunes, ronds-points, taxes, mais encore plus pour la Chine, pour l'Inde. J'avais compté avec un collègue indien il n'y a pas longtemps, mais j'ai oublié les chiffres, le nombre de personnes qui sont directement ou indirectement liées à l'économie du charbon en Inde, mais ça se compte en millions, en fait. Donc, décarboner dans ces pays-là, et la question se positionne en Europe avec, par exemple, la Pologne, hein, décarboner, ça veut dire s'adresser à des millions de personnes en leur disant, en fait, vous ne pouvez plus travailler comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Donc, ça veut dire qu'il faut les faire rentrer dans des circuits de formation, de professionnalisation, de réinvention de l'activité économique qui ne peut pas être fait comme ça, à moins de le faire de manière autoritaire et injuste. Juste, on coupe tout, et tant pis pour vous si vous retombez dans une pauvreté dont vous étiez en train de sortir.
Mais c'est la même question pour tout le monde, parce qu'en fait, je veux dire, en Europe aussi, si demain on dit ça suffit, l'énergie gratuite, vous en parlez aussi dans le livre, c'est que le coût réel, le coût caché des expéditions productives, des États, anciennes puissances coloniales ou autres, partout dans le monde, il n'est jamais facturé. Enfin, en tout cas, il n'est pas facturé.
C'est le principe de l'exploitation, effectivement, qu'elle soit ouvrière ou impériale. Hein, il y a effectivement une non-facturation, comme vous dites, de très nombreuses contributions. Effectivement, alors ça concerne aussi l'Europe, mais la différence, et c'est là que la question de la justice climatique est en fait un côté un peu tragique, très cruel, c'est qu'en fait les régions du monde, typiquement comme l'Europe ou les États-Unis, en fait continuent à bénéficier de l'avantage qu'elles ont acquis dans le passé à travers les prédations coloniales, parce qu'elles ont elles bénéficient déjà d'infrastructures technologiques assez développées, d'un certain niveau d'égalité malgré tout économique, hein, supérieur. Enfin, plus les pays sont riches et moins ils sont inégaux, en fait, tendanciellement, qui permet d'envisager la transition sans mettre à la rue immédiatement des millions de personnes. Le contraste, en tout cas, avec des pays comme l'Inde ou l'Indonésie, ou de nombreux pays d'Amérique latine, typiquement les grands pays extractifs, le Venezuela, c'est un pays extractif, Colombie, aujourd'hui la Bolivie est dans une situation en fait assez complexe, en raison du fait qu'elle détient beaucoup de ressources en lithium, qui est un composant nécessaire pour la fabrication de batteries, donc pour la transition, hein, pour l'électrification des véhicules. Donc vous voyez, la redistribution dans l'espace de l'économie extractive va avec des situations différentes en termes de justice sociale et environnementale. Vous voyez, par exemple, un pays comme l'Algérie, si dans X mois ou années, vraiment, le pétrole s'effondre complètement, durablement, comment l'Algérie va faire pour payer les écoles, les tribunaux, le minimum de redistribution qu'il y a? C'est un pays entièrement dépendant de l'économie pétrolière, pour le pire ou pour le meilleur. Pour le pire, parce que ça entretient une élite politique complètement qui ne rend compte à personne, corrompue, etc. Pour le meilleur aussi, parce que c'est le moment, c'est ce qui fait bouffer les gens, quoi, en quelque sorte. Donc il y a plusieurs pays comme ça dans le monde, Venezuela, d'une certaine manière l'Arabie Saoudite aussi, même si ça prend une forme un peu différente, sous le parapluie géostratégique américain. L'Iran, évidemment. Enfin, vous voyez, y a... Donc cette question de la transition redistribue complètement les cartes de la légitimité politique de très nombreux régimes et de l'équilibre des puissances entre eux. Donc on en est là. Il n'y a pas de voie de sortie qui se dessine de manière vraiment convaincante. Mais tout ça, pour revenir au livre, c'est quand même l'héritage de ce couplage entre abondance et liberté, une certaine forme d'abondance extrêmement coûteuse écologiquement. Et tant qu'on ne saura pas inventer des formes de prospérité, et même, pourquoi pas, d'une certaine manière, d'abondance, qui sont en fait émancipées des infrastructures matérielles, essentiellement du fossile et de l'extraction, on sera coincé dans cette impasse.
Du coup, c'est ce que vous appelez en fait, la nouvelle question sociale, qui est donc cette question de la terre, de comment est-ce qu'on construit une économie politique adaptée à nos réalités géoécologiques contemporaines. Et vous faites un assez long développement sur cette idée que donc il faut inventer ou qu'un nouveau sujet collectif doit se constituer. Et j'ai pas bien compris ce passage-là parce que ça me fait beaucoup penser à cette idée que voilà, enfin, il y a une classe révolutionnaire et je comprends pas bien à quoi ça correspond comme. Enfin, en quoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir un nouveau sujet collectif, ou en tout cas, quelle serait sa forme, ou de qui serait-il composé, de quoi, comment? Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'autres manières de poser cette question, cette nouvelle question, qui ne passerait pas par les formes un peu traditionnelles liées à cette historicité de la manière dont s'est constituée la conquête de la liberté, de l'abondance dans les sociétés modernes?
Oui, alors justement, c'est la raison pour laquelle j'emploie l'expression de sujet politique, de sujet collectif, c'est celle-là. C'est-à-dire, vous avez raison, hein, en histoire des idées, c'est comme ça que le concept est forgé. En fait, c'est un concept qui vient de Hegel, repris par Marx. C'est-à-dire, il y a certains groupes sociaux qui, en raison de facteurs historiques, sont mis en situation d'être en fait investis d'une mission historique. Pour Hegel, la mission historique, c'est la réalisation de l'état total prussien dans le monde. Pour Marx, c'est un peu différent, c'est la réalisation de l'état ouvrier à base industrielle. Et c'est en fait le fait que certains collectifs sont dépositaires de certaines pratiques, en l'occurrence le travail ouvrier, qui les investissent cette mission. C'est le sujet critique collectif, c'est ça. Alors, aujourd'hui, l'économie étant organisée différemment, les impératifs de développement, comme on l'a dit, étant nécessairement différents aussi, si on veut qu'advienne en fait une mutation en profondeur des régimes économiques et de leur légitimation démocratique, il faut bien qu'il y ait un sujet critique et apparaisse aussi. Ça ne va pas se faire tout seul. Hein. Ça va se faire dans un rapport de force, dans de la conflictualité. Donc il faut que ce sujet apparaisse et ce ne sera pas le même que le sujet ouvrier. D'accord ? D'une part parce qu'il n'est pas ouvrier en termes socio-économiques, surtout parce qu'il ne peut pas être occidental. Il ne peut pas être seulement occidental. D'accord ? Donc, nouveau sujet collectif, d'accord ? C'est pas le même qu'avant. Et ce qu'il faut étudier, et ça, c'est le travail de la sociologie, de l'histoire, plus que de la philosophie, probablement, ce qu'il faut étudier, c'est le nouveau type d'idéaux sociaux qui naissent dans les nouvelles formes de travail, qui envisagent le partenariat avec des milieux, des ressources et des territoires sous un angle moins productif que, on pourrait dire, reproductif. Hein, c'est-à-dire de perpétuation des conditions d'existence collective justes, libres et égales, plutôt que simple impératif d'accumulation. Donc, de ces nouvelles formes de pratiques, en principe, doivent dériver de nouveaux idéaux sociaux qui devraient être le ferment d'un groupe critique, et qui sont déjà le ferment d'un groupe critique. Seulement, ce groupe critique n'a pas aujourd'hui atteint la masse critique qui lui permet de proposer une on pourrait dire bêtement, une alternative politique crédible. Hein. Donc on n'y est pas, mais on peut le catégoriser comme un sujet collectif dans le sens où ça pose la question des rapports entre les pratiques sociales et l'histoire, en fait. La capacité à faire son histoire. C'est pour ça que j'emploie ce terme. C'est plus convaincant comme ça ou... Vous avez le droit de ne pas être d'accord.
Non, bah, donc vous faites référence plutôt aux luttes d'émancipation, aux luttes féministes, aux luttes décoloniales, à ces questions-là, mais j'ai l'impression qu'on reproduit encore une forme d'invisibilisation ou d'occultation de ce qu'est en réalité la pratique de subversion ou d'émancipation la plus généralisée. Moi, je pense au continent africain, là, ouais. Comme ça, en arrière-plan. Je pense à toute cette économie qu'on appelle informelle, mais qui, en réalité, est une économie populaire, une économie relationnelle, qui prend en charge, en réalité, ce souci de la reproduction, en fait, du maintien de formes de vie équitables, durables, et en tout cas, d'une certaine manière, du partage, de la distribution et du soin, et de l'attention accordée un peu à tous, qui est prise en charge en dehors, mais de tout cadre politique, de toute même réflexivité économique, politique, et qui ne se présente pas comme tel, qui n'est pas un discours, ouais, qui n'est pas un sujet politique constitué comme tel, mais qui, en réalité... un impact absolument gigantesque. Enfin, si on pense les sociétés de cette manière-là.
Je crois que je vois ce que vous voulez dire, mais je peux vous retourner la question. Est-ce que justement toutes ces pratiques-là, on ne pourrait pas imaginer qu'elles en viennent à s'instituer et à se présenter comme un cadre à l'intérieur duquel quelque chose comme un État va être tenu, va fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire que la source authentique de construction politique, à la fois en termes de justice et à la fois en termes de légitimité institutionnelle, peut venir de là.
Ouais, procède de cette.
Enfin, on peut être lucide et se dire que c'est pas peut-être pas pour demain, mais effectivement, je crois que je vois ce que vous voulez dire.
C'est pas. Hein.
Il y a pourquoi pas, ce serait. Mais il y a pas mal de régions du monde où effectivement l'ampleur de ce qu'on appelle le secteur informel de l'économie est telle que il y a lieu de penser que ça caractérise mieux les pratiques collectives que le caractère officiel, visible de l'extérieur.
De ce qui est calculé, mesuré et du coup pris en compte pour élaborer des analyses qui sont du coup en général un peu loin de...
Donc comme je connais pas bien techniquement les contextes sociaux auxquels vous faites référence, je peux que vous faire confiance. Et effectivement, ça ce sont des chantiers qu'on pourrait ouvrir en parallèle de ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire... Alors ça relève de la sociologie, des sciences politiques, de l'histoire. Étudier en fait les formes très concrètes que prennent l'assemblage entre la construction de nouvelles formes d'autonomie, de liberté, d'émancipation et des pratiques, par exemple des pratiques agronomiques nouvelles, des pratiques productives nouvelles, des pratiques relationnelles nouvelles, c'est-à-dire de faire éclater le cadre. Tel qu'il est devenu en fait hégémonique en Europe, que je décris dans le livre, non pas en disant la liberté n'a rien à voir avec les pratiques écologiques, ou surtout pas en disant il n'y a qu'une seule forme de liberté, c'est la croissance, mais en disant regardez, en fait il y a d'autres exemples qui existent dans d'autres régions du monde, ou peut-être même ici aussi en France, certainement. Hein. Bon, en général, ce qu'on me dit en France, c'est il y a la ZAD.
Alors, je ne l'ai pas dit.
Non, je dis en général. Bon, c'est très bien, la ZAD, certainement. Le problème, c'est que la ZAD, c'est quelques centaines ou milliers de personnes qui sont quand même assez encore éloignées de la capacité à atteindre cette masse critique qui permet un paradigme démocratique qui marche pour tout le monde. Parce que moi quand on parle de la ZAD, Je pense aux gens qui vivent dans les cités, aux gens qui n'ont pas d'abord le capital pour aller vivre à la campagne, hein, qui sont tenus par des liens de solidarité qui dépendent de l'État, qui dépendent en fait du marché de l'emploi, tout simplement, et des choses comme ça. Et donc, moi, ce que je veux, c'est que le paradigme écologique marche aussi pour ces personnes-là. Il marche pour tout le monde, en fait. Pas juste pour un petit groupe qui a décidé de prendre les rênes de leur existence. Tant mieux pour eux. Mais ça, c'est pas de la justice sociale, c'est de l'expérimentation collective. Et si l'expérimentation collective ne vaut que pour 300 personnes, honnêtement, moi, ça m'intéresse pas. Donc, il faut au moins que ça ait une visée de laboratoire pour le reste. Mais même ça, je pense qu'on en est encore assez loin. Donc, c'est pour ça, je trouve beaucoup plus intéressant l'exemple que vous prenez des capacités transformation politique, des formes de solidarité socio-économique.
Qui, en plus de ça, sont complètement encore enchâssées. Alors, l'idée, c'est de pas de retomber dans ce que vous évoquiez tout à l'heure comme ce conflit entre tradition d'un côté, modernité, mais qui sont en réalité encore des formes d'économie qui sont pleinement intégrées, encastrées, enchâssées une vie sociale, dans une vie culturelle.
Ressemble un petit peu à ce que Thompson appelle les économies morales, qui est à peu près la même chose que ce que Polanyi appelle une économie encastrée. Oui, c'est une économie qui n'est pas, en fait, qui n'est pas entièrement distincte de liens de solidarité familiaux, communautaires, avec des composantes traditionnelles, où en fait l'interdépendance n'est pas entièrement déterminée par la capacité à échanger des biens marchands, mais l'échange marchand se fond en fait dans la reconnaissance mutuelle des personnes appartenant à un même groupe. C'est à peu près la même chose que ce que décrivait Marcel Mauss dans l'essai sur le don aussi. Enfin, en fait, la sociologie classique durkheimienne, maussienne, dit à peu près la même chose que ce que dit Polanyi ou des gens comme Thompson, c'est-à-dire en fait, le problème, c'est pas que l'économie soit bonne ou mauvaise, le problème, c'est que l'économie existe. Parce qu'en fait, il faut que l'économie cesse d'exister pour que la société recommence à avoir à être le bon système d'obligation, en fait.
L'économie est entendue du coup comme plutôt le système marchand,
un système de prestations qui peuvent être symboliques et ou matérielles, qui peuvent tout à fait passer par des artifices monétaires. Il peut y avoir évidemment des banques, des choses comme ça, mais qui ne s'autonomise pas dans sa propre rationalité, qui est celle en fait des rapports entre coûts et bénéfices dans l'investissement, quoi. Donc c'est vrai que c'est une tradition politique qui a subi une très grande déconsidération dans les 30 ou 40 dernières années, parce que c'est ce qu'habituellement on appelle la tradition social-démocrate, et comme la social-démocratie dans ses formes au pouvoir en fait n'avait rien de social-démocrate, on a beaucoup de gens aujourd'hui pensent que la social-démocratie en fait ça veut dire le néolibéralisme, mais pas du tout. Social-démocratie, c'est en fait c'est la critique, à mon sens, la plus radicale de l'économie capitaliste, beaucoup plus radicale que le marxisme, parce qu'en fait, ça permet de repenser des liens de solidarité collectif, en fait, réellement autonome, en fait, à l'égard du simple critère de performance monétaire. C'est pour ça qu'il y a plus chez des gens comme Veblen ou Durkheim ou Polanyi que chez Marx. C'est ce que mes camarades marxistes n'arrivent pas à comprendre et que je suis obligé de leur expliquer en permanence. C'est que c'est pas un plus grand compromis entre la critique et la réalité, c'est un plus haut niveau d'exigence pour la critique.
Comme le mouvement que proposait Gandhi, puisque le marxisme, ça consiste simplement à finalement opérer un changement dans une opération dont les termes sont déjà un petit peu mauvais à la base, quoi.
Exactement.
Eh ben, merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était Afrotopique, un podcast du studio Génération Afrotopia. On espère que cet épisode vous a plu et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Pour nous aider à poursuivre ce travail, soutenez-nous avec un don sur HelloAsso. Vous trouverez le lien dans la description. Suivez notre actu sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les plateformes. Merci beaucoup, ça nous aide vraiment. Vous pouvez également retrouver Afrotopique sur les plateformes des camarades de la R22.fr, la radio des arts et du commun, ou sur Imago TV, le Netflix de la transition écologique. La musique du générique est un extrait de l'album Par les damnés de la terre de Rosset, Et en introduction, vous avez entendu la voix de Amadou Ampateba. À bientôt.